Esprit.
Entendre.
Esprit.
Comprendre.
Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient.
On va, on démarre.
Il n'y a jamais de voix favorable parce qu'il faut toujours au moins sauver l'honneur de la pensée de la politique et que donc, même quand tout est perdu, l'honneur n'est jamais perdu et qu'il y a donc de ce point de vue-là toujours des raisons de tenir bon.
L'intellectuel est sans pouvoir et c'est en tant qu'il est inefficace qu'il peut servir.
The only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. But I would say not thinking and not in a pas réfléchir, c'est plus dangereux encore.
Bouygues était un homme qui participait tout à fait aux débats et aux affrontements du monde.
Bienvenue dans À plusieurs voix, le podcast de la revue Esprit qui fait dialoguer ses textes d'hier avec ses auteurs et autrices d'aujourd'hui, pour une conversation au présent sur la vie des idées. Dans cet épisode, Camille Riquier, philosophe, choisit un texte de Marcel Hénaff, publié en 2002, et nous parle de dons, d'échanges marchands et de reconnaissance.
Bonjour. Je viens chercher un numéro spécial. C'est le numéro de février 2002 qui s'intitule, le dossier s'intitule « Y a-t-il encore des biens non marchands ?» et qui était un numéro dont le dossier était consacré au livre tout récemment publié de Marcel Hénaff, « Le prix de la vérité ». Voilà, il faut que je retrouve l'article. C'est du don cérémoniel à la politique de reconnaissance. Voilà, si je devais en choisir un, ce serait celui-ci.
Ainsi émerge la question de la gratuité du don face à la cupidité de l'échange profitable. Mais cela concerne-t-il la transmission du savoir? Est-ce cela qui était en question dans la dénonciation platonicienne des sophistes? Platon ne le dit pas. Aristote, en revanche, fournit deux arguments précis et surtout décisifs. C'est par sa nature même que le savoir est réfractaire à l'évaluation en numéraire. Et cela parce qu'il ne peut techniquement être soumis à une opération de mesure quantifiable. Mais, par-dessus tout, c'est la philosophie, savoir le plus haut, qui se refuse à une telle opération. Et puisqu'on ne saurait rétribuer nos maîtres en philosophie par un paiement, il reste, dit Aristote, à les honorer, comme on le fait pour nos parents et pour les dieux, par des offrandes appropriées, dons et gratitude envers nos parents, offrandes et sacrifices offerts aux dieux. Cette seconde affirmation constitue un tournant pour cette interrogation. Car en demandant à la relation de dons de pallier, dans certains cas, les limites de l'échange marchand, Aristote mobilise un fonds symbolique d'une portée considérable. Pourquoi le geste d'offrir un présent, quand le prix est impossible à déterminer, pourrait-il suppléer celui de payer un dû? Nous avons peut-être le sentiment de la justesse de cette solution. Encore, faut-il la comprendre dans toute son originalité et sa complexité. Que suppose entre humains ce geste aussi simple que mystérieux, donner?
C'est un dossier qui était paru donc en février 2002. Je venais d'avoir l'agrégation de philosophie. Je commençais mes classes de terminale de philosophie. Donc, tout jeune professeur. Et lorsqu'on enseigne la philosophie, on commence par là, Platon, qui distingue la philosophie de la sophistique en lui disant « Mais la grande différence entre les deux, c'est que les philosophes ne sont pas payés. » Et les professeurs disent ça sans sourciller, tout en étant rétribués, moyennant salaire, pour dire cela aux étudiants. Le texte m'avait frappé puisqu'il mettait au fond en scène quand même une énigme et puis aussi un sujet dont les philosophes parlent peu, par mépris, indifférence, l'argent. Et ce dossier-là, en plus, me montrait une autre façon de discuter, de traverser les disciplines. Marcel Hénaff, que je découvrais à ce moment-là, est philosophe-anthropologue. Il enseignait à l'université de Californie, à San Diego, et mélanger les disciplines. C'est vraiment un livre somme. Il retraverse l'histoire de la philosophie, l'anthropologie, il rediscute les thèses de Marcel Mauss, de Lévi-Strauss. Mais le point d'accroche pour moi, qui était philosophe, c'était au fond cette question de la rémunération, qui n'avait jamais vraiment été discutée. C'est-à-dire qu'on se contentait de dire que la différence entre le sophiste et le philosophe, c'est que le philosophe n'est pas payé. Et lui rentrait vraiment dans le texte, Aristote lui donnait la solution, et dans le texte qui a été proposé, il y avait un indice. C'est-à-dire que alors, mais de quoi vit le philosophe s'il n'est pas rétribué? Parce qu'il y a des choses, et c'est aussi une des thèses de Marcel Mauss, qui sont hors de prix, inestimables, dont le savoir, ce que les Grecs disaient. Le savoir est sans commune mesure avec l'argent, disait Aristote. Mais alors, au fond, Marcel Hénaff le dit, de quoi vivait Socrate? Mais de dons. C'est pas pour autant qu'il souffrait la faim. Et donc ceux-là même qu'il écoutait, simplement ne lui donnait pas un salaire comme on le faisait pour les sophistes, et souvent très élevé, mais des dons simplement même pour le remercier du savoir qu'il avait dispensé. Et chose que je découvrais à ce moment-là, c'est qu'effectivement, lorsque ceux-là même qui est donné est trop élevé pour avoir un prix véritable, on ne parle pas de salaire, on parle d'honoraires. Les docteurs, voilà, ils ont des honoraires. Les avocats, ils ont des honoraires. Ça veut dire qu'en un sens, on leur donne quelque chose pour leur faire honneur du bienfait qu'ils ont dispensé. Et tout d'un coup, je voyais, oui, des métiers différents où il y avait, au fond, quelque chose qui ne pouvait pas exactement se rétribuer à sa prétendue juste valeur. Et la philosophie en faisait partie. Donc j'en étais moi-même très honoré.
Le problème, c'est que l'on cherche toujours à comprendre le don comme cession d'un bien. Or, et c'est la démonstration originale proposée ici, le don cérémoniel ne consiste pas en une circulation de biens. Il est d'abord, à travers la chose offerte, le geste de reconnaître l'autre, de le saluer, de l'honorer, de lui montrer de l'estime par les biens offerts, de le défier aussi, et par là, de l'obliger à répondre, de provoquer un engagement mutuel. Le don relève d'une éthologie de la reconnaissance réciproque. Il constitue la forme par excellence du lien social et de la reconnaissance publique, qu'expriment les statuts, dans les sociétés segmentaires. Ces biens offerts ont avant tout une valeur symbolique. Ils sont de la part du donneur, groupe ou individu, un gage de soi, voire soi comme tel. Ce point est essentiel, car tout l'enjeu se situe dans cet engagement. Ce risque pris, ce défi de l'alliance, cette folie de se lier à travers ce que l'on s'offre réciproquement. C'est cela, et cela seulement, qui fait la valeur inestimable de la chose donnée. D'où ce résultat peut être surprenant. La relation de don, même si elle se définit comme l'opposé du rapport marchand, n'a pas pour fonction de récuser celui-ci, encore moins de s'y substituer. Elle se joue sur un autre plan. Elle n'empêche pas l'échange utile, elle peut même le conforter. Pour le dire de manière analogique, elle n'empêche pas les hommes d'assurer les provisions pour se nourrir. Elle veut seulement, dans certains cas, qu'il y ait des repas de fête.
Marcel Hénaff étudie le don, mais plusieurs formes de dons, et d'une certaine manière même met l'accent sur un don qui n'était pas distingué des autres. C'est-à-dire qu'il va vraiment montrer qu'il y a plusieurs espèces de dons qui sont vraiment radicalement différents les uns des autres. Il y a au fond deux originalités dans la thèse qu'il défend. D'abord, c'est de montrer que l'échange économique ne succède pas au don tel qu'il était pratiqué dans les sociétés archaïques, comme si au fond il y avait sur une même ligne progressive d'abord des sociétés à potlatches où au fond les tribus s'échangeaient des dons les uns les autres, et puis ensuite l'économie qui progressivement se rationalise et remplace cette générosité du moins apparente des sociétés passées. Il montre que, comme le texte l'indique, cela se situe sur deux plans différents et qu'il y a plusieurs manières de donner, et que la dimension symbolique du don est essentielle. Et en cela, elle n'est pas économique, elle est politique. C'est-à-dire qu'elle a une portée symbolique très très forte, dans le sens où lorsqu'on donne, contrairement à la transaction économique, il ne s'agit pas simplement, en quelque sorte, de s'attacher à l'autre le temps de la transaction. Bref, pour le quitter ensuite, je paye ma baguette de pain et je quitte ma boulangère, je n'ai plus rien à lui devoir. Le don, au contraire, est là pour nouer un lien. C'est-à-dire que c'est vraiment cela même qui va nouer, créer un lien social et voire politique entre les différents groupes, au sein même d'un État, qu'entre les États. Il y a un don réciproque, c'est-à-dire que le fait que le don soit rendu n'annule pas le don. Et d'ailleurs, ça, c'est l'ouvrage qu'il avait écrit 10 ans plus tard, en 2012, le don des philosophes. Il s'est aperçu que les philosophes, lorsqu'ils parlaient du don, étaient très généreux. C'est-à-dire qu'ils estimaient à chaque fois que le don devait être unilatéral, et que s'il était rendu, c'était plus un don. Le don s'inscrivait dans un circuit économique qui annulait le don comme tel. Et d'ailleurs, c'était plus ou moins aussi une lecture possible de Marcel Mauss, de dire que s'il y a don et contre-don, alors il y a échange et il n'y a plus don. Lui va montrer qu'il y a la possibilité pour le don d'asseoir une réciprocité. Parce que l'essentiel, lorsqu'on donne de façon cérémonielle et publique, c'est pas le bien qu'on échange, c'est l'autre à qui on donne. C'est-à-dire que la grande différence entre la transaction économique d'un côté et le don cérémoniel dont il parle, c'est que dans la transaction, c'est le bien qui importe. C'est cela même que je donne, mais dans le don cérémoniel, c'est l'autre à qui je donne qui est reconnu comme tel, dont je montre toute l'estime que je lui porte, l'honneur que je lui fais, et donc aussi le lien que je crée avec lui. Et donc là, ici, le bien est mis, si je puis dire, au second plan. Ce n'est jamais que l'occasion ou la médiation par laquelle je me lie à l'autre dans une alliance. Et donc, on pourrait d'ailleurs distinguer le contrat, qui est plutôt de type économique, et l'alliance qui se fait précisément par ce don, qui permet en quelque sorte la reconnaissance, la manière dont je peux reconnaître l'autre en tant qu'autre. Il y a plusieurs choses qui me paraissent originales dans le livre de Marcel Hennaff. D'abord, c'est une lecture nouvelle de Marcel Mauss et de Lévi-Strauss, sans pour autant quitter l'actualité. C'est-à-dire que c'est simplement prendre un recul par rapport au présent, voir le présent depuis un passé beaucoup plus long, une histoire longue, et une manière aussi de réinterpréter Marcel Mauss, qui jusqu'ici avait été considéré d'abord effectivement comme proposant un nouveau paradigme qui était celui du don, mais qui insistait davantage sur la rivalité des systèmes à potlatch. C'est-à-dire qu'il avait, si je puis dire, mis l'accent sur une société du Nord-Ouest américain qui pratiquait le potlatch pour l'étendre aux autres sociétés, et comprendre, si je puis dire, les autres sociétés à partir du potlatch, où la rivalité, au lieu de donner des coups à l'autre, de donner des cadeaux, et cadeaux d'ailleurs, ça, étymologiquement, c'est enchaîner. On enchaîne l'autre, on le piège, on l'oblige, si je puis dire, à nous rendre, alors que lui, justement, va montrer, y compris dans les analyses de Marcel Mauss, qu'il y a toute une part symbolique de reconnaissance de l'autre et une manière de se lier à l'autre. Donc ça, c'était l'une de ses singularités, et d'ailleurs, ça lui permettait d'ailleurs de rapprocher Mauss et Lévi-Strauss, et de ne pas parler, comme ça arrive, d'une économie du don. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour lui d'échapper au capitalisme de toute manière en proposant une autre économie, qui serait une économie du don, mais montrer qu'il y a, sur un autre plan, qui est tout à fait d'ailleurs compatible avec l'économie marchande que nous connaissons, une logique symbolique du don, qui serait capable, en quelque sorte, de s'élever au-dessus de l'économie pour rappeler l'importance du politique. Et lorsque l'Union européenne se construit, c'est tout de même une des questions principales qui se posent. C'est comment, si je puis dire, le lien politique, parce que pour lui, le don est institutionnel, institue quelque chose, et c'est là où le lien social devient aussi lien politique. C'est lorsqu'on donne à l'autre, et que l'autre, en quelque sorte, reçoit et se sent dans l'obligation de rendre. Et là, il y a un pacte qui se noue. On est lié par ce cadeau où il y a eu un, comme il le dit, un gage de soi. C'est-à-dire que dans ce don, on y a mis de soi-même, ce qui nous lie indéfectiblement à l'autre.
Il ne s'agit nullement d'aide ou de compassion. Il ne s'agit pas de céder des biens comme tels. Il s'agit de la reconnaissance de l'autre. Nul ne l'a énoncé de manière plus radicale que Lévinas, dans Totalité et Infini. L'éthologie de la rencontre, dont témoigne le don cérémoniel, s'origine dans l'apparition du visage, dans l'être-visage d'autrui. c'est-à-dire dans une éthique de surgissement de l'autre comme tel, de son existence comme non déductible de la mienne, comme événement pur, et qui m'enjoint de répondre. Le « tu dois » est un « tu dois donner ». Mieux, « tu te dois ». Ce que dit le visage, c'est l'exigence absolue de reconnaître autrui dans son être, irréductible à ce que je suis. C'est cela, ce défi, cette différence infinie qui est au cœur du don cérémoniel et des procédures d'alliance. Aussi, le visage qui révèle ne saurait-il se séparer, ce que met Lévinas, de la main qui donne le gage, le sacrement de la reconnaissance. Ce que d'emblée et en définitive un être humain attend d'un autre être humain, c'est d'être reconnu inconditionnellement dans sa dignité. C'est cela, rien d'autre, qui est en question dans la relation de don. Et c'est en cela que le prix, sans prix, de la vérité, c'est aussi celui de la dignité.
Il faut relire ce texte maintenant, car il est toujours plus d'actualité, sachant que de plus en plus de choses trouvent un prix. Désormais, au lieu de prêter son appartement à ses amis, on le loue à des inconnus. Au lieu de faire de l'autostop, on fait du covoiturage. Donc tout est monnayé. Et d'une certaine manière, on a l'impression que rien n'échappe à l'économie marchande et au rapport monétaire. Ce qu'il nous dit, c'est que évidemment, il y a des prix, il y a une économie marchande, il ne le conteste pas, mais il rappelle simplement aussi qu'il y a des choses qui sont hors de prix, qui sont essentielles, parce que d'une certaine manière, par cette médiation symbolique qui consiste simplement à donner, et à donner publiquement, parce qu'il ne s'agit pas non plus de revenir à la charité chrétienne, où il s'agit de donner en secret, surtout, simplement au regard de Dieu. Là, c'est précisément un geste public qui est vu par tous, et qui, pour cette raison, a une valeur politique. D'une certaine manière, je crois qu'il parle même de deux ordres, de deux plans, où l'un n'est pas là pour contrarier l'autre. Simplement, je pense qu'en omettant cette dimension-là, le risque est beaucoup plus grand, en quelque sorte, de tout fonctionnaliser. Ça veut dire on vit de plus en plus dans un rapport mécanique, inerte, où justement tout est considéré comme des choses, sans considération des personnes. Il est possible que l'échange ne suffise pas à la considération des personnes, et que le don, sans contredire l'échange, est là tout de même pour que le monde redevienne habitable, où l'autre existe en tant que tel, soit reconnu comme tel, et respecté. Par cette question du don, c'est les choses et les hommes qui se lient les uns aux autres. Ça veut dire que nous sommes entre les choses. Et le don, si je puis dire, permet en quelque sorte d'articuler notre vie quotidienne, dans la manière même dont nous nous rapportons les uns aux autres, mais par les choses. Il cite, dans le dernier texte que nous avons lu, Lévinas, et il se rapproche de lui, puisque le don, c'est une manière de reconnaître l'autre en tant que tel, c'est la reconnaissance d'autrui, mais il y ajoute cette nuance qui me paraît, moi, fondamentale, c'est justement que ce n'est pas un face-à-face, qu'il faut rajouter au visage de l'autre qui me fait face la main tendue qui lui adresse un présent. Et donc c'est une manière, moi je trouve, très forte et beaucoup plus profonde qu'on ne pense que d'articuler les choses et les hommes. Soit on considère que l'économie c'est d'affaire qu'aux choses, et on traite d'ailleurs les hommes comme des choses, c'est une régulation de biens, de personnes. L'éthique, on considère que les hommes, dans un face-à-face quasiment pur, décontextualisé, hors monde, hors sol. Eh bien, à travers même cette notion de don cérémoniel symbolique, il y a une manière de se rapporter à l'autre, de reconnaître l'autre, mais par la médiation des choses qu'on s'échange, qu'on se donne ou qu'on se contredonne. Et là, je trouve quelque chose vraiment à explorer et qui, sans être une critique violente, unilatérale de l'économie de marché que nous connaissons, permettrait tout de même de pouvoir pallier à ces insuffisances ou aux dérives auxquelles on assiste malheureusement.
Vous pouvez retrouver ce texte sur notre site internet esprit.presse.fr. C'était À plusieurs voix, un podcast de la revue Esprit, écrit et préparé par Anne Dugin et Rémi Baille, réalisé par Louise André. Lecture, Sarah Stern. Musique originale, Valentin Fernandez. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.